Bonjour et bienvenue à cette courte revue de l'épisode 62 où nous avons discuté agilité et management d'équipe avec Arnaud Tonnelet, executive coach, coach d'équipe et d'organisation chez Kia et Partners à Paris et auteur de plusieurs livres. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous vous proposons une courte discussion de 15 minutes maximum pour mettre en lumière les faits saillants et les actions à mettre en œuvre suite à cette rencontre. Bonjour Éric.
Bonjour Jean-François.
Éric, j'aimerais connaître les trois éléments clés qui t'ont marqué dans cette discussion que j'ai eue avec Arnaud Tonnelet.
Jean-François, tu as eu une rencontre vraiment, vraiment intéressante. J'ai quelques points que j'aimerais partager avec toi, puis je suis convaincu que tu en as d'autres, ou du moins on va pouvoir compléter cette discussion-là. Premier point pour moi, en termes de faits marquants, c'est toute la discussion sur la vitesse. La vitesse comme avantage concurrentiel. Et dans son propos, c'est une réflexion à savoir, est-ce que l'agilité signifie pas que c'est tout simplement une question de vitesse, de s'adapter à une vitesse plus rapide de l'environnement concurrentiel, mais aussi comment qu'on est capable d'exploiter cette agilité-là ou cette vitesse-là. Donc, pour moi, c'est une question de comment la vitesse vient être en accord ou aligné sur la notion d'agilité. Et dans ce contexte-là, est-ce que ça signifie pas simplement de dire que l'agilité, c'est l'élimination des frictions qui existent? Donc, toi qui es un agiliste, j'aimerais juste peut-être comprendre comment tu l'as interprété, cet élément-là, parce que je suis convaincu que dans ta perspective d'agilité, il y a peut-être des éléments qui sont différents.
Bien, je pense que les deux sont reliés, qu'on le veuille ou non. La prime à la vitesse qu'Arnaud nous fait remarquer, on sort de cette prime à l'avantage compétitif ou à la taille. Hein. Les gros avaient toujours l'avantage sur les petits, dans, entre guillemets, l'ancien monde. Moi qui croyais que c'était plutôt cette ouverture nouvelle sur l'importance ou l'intérêt des clients et l'intérêt des collaborateurs et l'intérêt, entre guillemets, de la société plus large. Je pense que les deux se complètent de toute façon, mais ça sera l'objet d'autres discussions. Mais cette prime à la vitesse nous demande d'aller plus rapidement, donc de raccourcir nos cycles, donc nous amener plus vers quelque chose d'un petit peu plus itératif et d'un peu plus incrémental. Donc, l'agilité est bien, colle bien, entre guillemets, à cette nouvelle réalité-là.
Le deuxième élément, pour répondre à ta question qui m'a marqué par la discussion que tu as eue avec Arnaud Tonnelet, c'est la notion de performance des équipes. Et ça, ça me peut-être, au premier abord, peut-être bousculé sa perspective quand il dit que la performance des équipes se mesure essentiellement au résultat. Est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Et on n'a pas besoin de mesurer continuellement l'équipe en soi. On doit mesurer l'output de l'équipe. Autant que je peux être d'accord avec cette perspective-là, autant que je suis peut-être de l'école qu'on dit que la notion de prédictibilité ou prévisibilité, comment est-ce qu'on est capable de bâtir des éléments qui nous permettent de voir est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est-à-dire, est-ce que on peut utiliser des mesures après le fait, mais on peut aussi regarder certains indicateurs. Question d'avoir une vision prédictive de la performance des équipes. Donc, à mon sens, c'est où est-ce que je réagis, c'est de dire, mais est-ce que c'est cette vision-là? Oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi travailler certains indicateurs qui nous permettraient de savoir est-ce que, à quelque part, notre équipe s'en va aussi dans la bonne direction?
Oui. J'ai aimé ce côté un peu provocateur dans l'entretien. Je m'en préoccupe assez peu, en réalité. J'adore ça. Moi, ce côté provocateur-là me force à réfléchir et à, comme tu dis, questionner mes a priori ou questionner mes certitudes. Évoluer peut-être un petit peu plus loin de ma zone de confort, comme Marcel le disait. Et donc, vraiment, à se questionner sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est le premier critère. Après, je pense que plus l'environnement est compétitif ou férocement compétitif, on va s'en apercevoir assez rapidement. On le voit bien dans le sport, on le voit bien dans toutes les compétitions sportives où, finalement, le résultat est relativement objectif et relativement, entre guillemets, facile à mesurer. Et dans ces domaines-là, bien, aller chercher les derniers éléments de performance, eh bien, pour faire ça, il faut justement avoir une équipe qui, j'appellerais surperforme ou performe particulièrement bien. Et ça, je pense que on doit se concentrer sur, comme Arnaud disait, les éléments plus subjectifs, la qualité du relationnel et ces éléments-là.
Mais ça ouvre la porte, je dirais, pour moi, au troisième élément qui m'a marqué dans la discussion que tu as eue. C'est quand il aborde la question d'intelligence collective. Il définit cette intelligence collective comme le 1 plus 1 égale 3, donc la notion de synergie, mais il la voit surtout par la qualité des maillages qui est créée entre les individus. Et pour cela, la taille idéale d'un groupe pour maximiser la valeur, il la positionne entre 8 et 12.
Oui.
Parce que, et ça c'est drôlement important, c'est la notion de performance des équipes, c'est associé à l'équilibre entre le nombre de ressources et les coûts de coordination. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental, souvent un élément mal maîtrisé dans les organisations. Oui. Et c'est important de considérer ces facteurs de coordination. C'est pas parce qu'on a une équipe plus grande qu'on est nécessairement plus performant, on ajoute des ressources. Non, c'est qu'à un certain degré, il faut coordonner ces ressources-là pour qu'elles forment un tout qui est synergique. Et ça, pour moi, c'était un élément de la discussion qui était vraiment, vraiment un point là, qui était très, 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 très bien.
Et je vais compléter ça. Donc, le 8 à 12, merci. Je suis enfin, moi qui aime, je reste avec un background d'ingénieur, j'aime bien quantifier les choses. Aussi, ça doit venir des dernières recherches sur les neurosciences. L'être humain est capable d'établir des relations avec 100, 120 personnes. Donc, grosso modo, réfléchir à nos organisations, pas juste la taille d'équipe de travail, mais l'organisation dans son ensemble, pour tourner autour de ce chiffre-là, pour voir un peu comment est-ce qu'on établit des relations avec les différentes entités de, entre guillemets, ces différents groupes d'individus d'une centaine ou 120 personnes. C'est quelque chose que je trouve à la fois très pratico-pratique aussi. Hein. Je me dis, bon, maintenant, je pourrais regarder mon organisation en termes de sous-ensemble de 100 ou 120 personnes. Pourquoi? Parce que aller au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Je vois aussi quelques articles qui nous disent que l'être humain n'est pas nécessairement fait pour avoir un nombre infini de relations significatives. Au-delà de, donc autrement dit, combien d'amis est-ce que vous avez, combien de relations est-ce que vous avez. Il y a des limites à ce que notre cerveau peut faire. Elles sont très élevées, ces limites-là, mais elles sont là quand même.
Et pour moi, le dernier élément que j'aimerais soulever par rapport à ta question, par rapport au fait marquant de l'entrevue que tu as eue avec Arnaud, c'est la perception du changement. Et là, pour moi, c'est le commentaire que je vais faire, je pense, touche directement une corde sensible à toi. C'est-à-dire que tu parles souvent de la vicacité de l'environnement, d'un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. Il pose la question, vivons-nous réellement dans un monde vica ou sommes-nous plutôt confrontés encore une fois, la nature imprévisible du changement, simplement exacerbée aujourd'hui par l'importance de la vitesse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme discussion parce qu'on a souvent répété dans le podcast que, évidemment, le monde aujourd'hui est beaucoup plus volatile.
Oui.
Mais à quelque part, on avait cette même discussion-là il y a 20 ans quand on parlait de réingénierie des processus.
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, un des éléments, des facteurs, c'est justement l'importance de la vitesse et des moyens qui ont apporté cette vitesse-là. Et c'est la réflexion qu'il pose dans l'entrevue. Je l'ai trouvé tout à fait à point. J'ai beaucoup aimé cet élément-là de la rencontre que tu as eue.
Oui, oui. Moi, c'est j'aime ça me faire dire que je suis entre guillemets dans le champ. Et j'aime ça me faire questionner mes certitudes. Donc oui, est-ce que le monde est plus vica qu'avant? Peut-être pas. Et je vais ramener ça
mais
sur
on
le
en
sujet.
Parle plus.
Alors, ouais, mais je vais remettre ça sur le tapis avec quelques-uns de mes prochaines entrevues qui s'en viennent avec grand plaisir pour justement essayer d'approfondir ça. Est-ce que c'est une question de perception? Où est-ce que c'est réellement en train de se produire? Je remercie beaucoup Arnaud pour avoir questionné ma certitude sur « oui, effectivement, notre monde est plus incertain qu'avant ». Ben non, peut-être pas finalement. Je vais ajouter un seul élément à ceux dont tu viens de nous parler. C'est celui de cette question-là de mécanisme de prise de décision comme facteur structurant d'une organisation. Je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça. Je n'avais jamais perçu l'importance de cette façon de prendre les décisions comme étant un élément qui structure une organisation. Je le voyais comme un élément culturel, mais pas comme un élément structurant. Alors, quels sont les principaux points d'action que tu retires de cet entretien?
Je vais y aller dans l'ordre ou dans le désordre. Le premier, pour moi, c'est une question de ralentir. On en a parlé dans l'épisode quand on parlait de développer sa pensée stratégique. Ralentir, c'est une notion qu'il faut, je crois, apprivoiser en entreprise. Il faut observer, il faut écouter, il faut prendre du recul. Je pense que la discussion que tu as eue avec Arnaud Tonnelly mettait vraiment en valeur cette notion de ralentir pour gagner en perspective. Pour moi, ça, c'est le premier élément à mettre en œuvre suite à cette, comme fait saillant et comment le mettre en œuvre. Le deuxième élément, c'est de développer des conditions de succès des équipes. Qu'on soit d'accord avec les notions prédictives ou après le fait, je crois qu'il faut maximiser la collaboration. Il faut réfléchir quels sont les mécanismes qui existent pour développer cette collaboration-là. Et pour moi aussi, en même temps, c'est de réfléchir en termes de pour assurer cette participation maximale des parties prenantes dans une équipe, c'est de réfléchir aussi à l'intelligence émotionnelle de l'équipe, des individus et de l'équipe en soi. Oui. Je crois qu'il y a eu assez de recherches là-dessus sur le sujet et par expérience, on l'a tous vécu. On arrive tous dans nos équipes avec un bagage, avec une perspective qui est la nôtre. On doit être capable de maximiser les interrelations et de tenir compte aussi de l'écoute envers les membres de l'équipe.
Oui.
Donc, il y a une série de questions que je pense qu'il faut se poser sur quels sont les moyens de bâtir ou de développer les conditions de succès pour arriver avec une équipe performante et qui puisse réussir. Le dernier élément que j'aimerais proposer, et Jean-François, tu en as certainement d'autres à rajouter sur ces trois-là, dans le podcast, justement, on a parlé souvent par rapport aux équipes, d'autonomie, on a souvent parlé de compétences et on a souvent parlé de créer un climat de confiance. Un excellent livre sur le sujet, c'est « Thinking for a Living » de Thomas Davenport. C'est justement comment qu'on développe ces différents mécanismes-là pour créer des équipes performantes. D'ailleurs, on a eu un épisode dans notre podcast sur justement développer des équipes performantes. Oui. Et c'est des éléments qui, pour moi, ressortent de la discussion avec Arnaud et qui nous permettent de réfléchir comment qu'on peut justement développer une meilleure performance dans un climat où est-ce que justement la vitesse est un facteur essentiel.
Oui. Pour moi, les deux ou trois éléments qui m'ont beaucoup marqué, c'est un, lire un livre. Je suis aussi coupable que les autres. J'ai tendance à utiliser mon téléphone comme un livre, comme une revue, comme un journal. Effectivement, lire un livre, se rappeler que l'intelligence collective est la première intelligence artificielle. Ça, c'est un bon quote d'Arnaud Tonnelly que je retiens. Porter beaucoup attention à ce collectif-là, à son fonctionnement, à la qualité des relations à l'intérieur du collectif. Et puis, selon moi, ce que je lis ou ce que j'entends en filigrane, c'est rester curieux. Posez-vous des questions, allez voir, allez à la découverte. Dans mon expérience, la plupart des gens aiment parler de ce qu'ils font. Faites-les parler. Pas nécessairement pendant des heures et des heures, faites-les parler. Voilà, chers auditeurs, les éléments clés qu'Éric et moi voulions partager avec vous suite à cette entrevue avec Arnaud Tonnelly. On espère que vous appréciez cette formule Bonnie ou Extra où on essaie de faire ressortir les éléments clés de ces entretiens en moins de 15 minutes. Nous aimerions connaître ce que vous avez retenu comme point clé de la rencontre avec Arnaud Tonnelly. Faites-nous en part en suivant le lien dans la description. Au plaisir de vous lire et de vous retrouver lors de notre prochaine rencontre. Au revoir, Éric.
Au revoir, Jean-François. Au revoir à tout le monde. À bientôt.
À bientôt.